Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, au micro Idrissa Seboudia. Bonjour, nous nous excusons pour ces incidents techniques. Deux soldats maliens ont été tués hier et six blessés par l'explosion d'une mine artisanale. Et de sources sécurisées à l'entrée du village. Selon qui l'anonymat. Le véhicule transportait des soldats devant assurer une relève dans la zone, a-t-elle ajouté. Au Nigeria, des hommes armés ont enlevé ce mercredi plus de 70 lycéens dans le nord-ouest du pays, selon la police. Dernier kidnapping en date d'une longue série visant les établissements secondaires. Les établissements scolaires. Les enlèvements de masse avec demande de rançon dans le nord et le centre font désormais les gros titres presque chaque semaine au Nigeria. En Côte d'Ivoire, l'animateur d'une télévision ivoirienne, Yves de Mella, qui avait suscité l'indignation pour avoir invité un ex-violeur à expliquer comment il abusait de ses victimes, a été condamné hier à Abidjan à 12 mois de prison à sursis pour apologie du viol et atteinte à la pudeur. Il a également été condamné à 2 millions de francs CFA de monde et s'est vu signifier l'interdiction de quitter Abidjan. L'Égypte, qui a entamé la fabrication de vaccins du laboratoire chinois Sinovac, envisage de produire 1 milliard de vaccins anti-Covid par an, ce qui ferait d'elle le plus grand producteur de vaccins au Moyen-Orient, du Moyen-Orient et d'Afrique. Moderna a annoncé mercredi avoir soumis à l'Agence américaine des médicaments de premières données dans le but d'obtenir l'autorisation pour une dose de rappel aux États-Unis. Le commissaire européen chargé de coordonner l'approvisionnement de l'UE en vaccins anti-Covid, Thierry Breton, a rejeté les critiques de l'OMS au sujet des troisièmes doses de rappel dans les pays riches, alors que des pays pauvres attendent toujours leur première dose. Un juge américain a approuvé mercredi le plan de faillite proposé par Purdue, laboratoire accusé d'avoir contribué à la crise des opiacés aux États-Unis, qui a accepté de verser 4,5 milliards de dollars aux victimes et institutions affectées en échange d'une certaine immunité pour ses propriétaires, la famille Tacle. L'Afrique du Sud a déclaré hier qu'elle n'était pas en mesure d'accueillir sur son territoire des réfugiés afghans qui ont fui le pays après la prise de contrôle. Après la prise de contrôle de Kaboul le 15 août par les talibans, arguant qu'elle a déjà sur son territoire un nombre substantiel de réfugiés. Le pays a été sollicité pour accueillir temporairement, avant qu'il rejoigne une destination, des Afghans réfugiés chez le voisin pakistanais, a précisé le ministère. Le président américain Joe Biden a refait hier à son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky, qu'il recevait à la Maison-Blanche, la promesse de le soutenir face à la Russie tout en restant évasif sur la question très délicate de l'OTAN que l'Ukraine voudrait rejoindre. Ici aux États-Unis, un élève a été tué par balle hier lors d'une fusillade dans son lycée de Winston-Salem en Caroline du Nord, a annoncé la police. Le suspect, qui serait aussi un élève du lycée, a été placé en garde à vue en fin d'après-midi. Des trombes d'eau se sont abattues sur New York dans la nuit de mercredi à jeudi, au passage des restes de l'ouragan Ida, qui a fait 7 morts dans le sud des États-Unis et provoqué tornades et inondations dans le nord-est du pays. D'impressionnantes tornades ont été observées en Pennsylvanie, dans le New Jersey et dans le Maryland, où un jeune homme de 19 ans est décédé et une autre personne est portée disparue après l'inondation d'un immeuble.
La suite de nos informations. Dans le nord-est de la République démocratique du Congo, 4 personnes ont été tuées mercredi sur une route d'Ituri par des rebelles ADF présumés. Selon des sources militaires et locales, ces derniers ont aussi incendié une dizaine de véhicules, pourtant censés circuler en convoi sécurisé. Les détails avec Eric Manirakiza.
Le convoi était escorté par les casquets bleus de la MONUSCO et l'armée, a déclaré Dieudonné Malangai, un responsable de la société civile locale. C'est hier matin que les rebelles ADF ont coupé le convoi au milieu. Ils ont attaqué les véhicules. Plus d'une dizaine de véhicules ont été brûlés. Le bilan définitif n'est pas encore connu. Nous avons pu récupérer plus de 60 disparus dans la brousse. Après cette attaque, a précisé le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole des opérations militaires en Ituri. La route nationale 4 relie la province de l'Ituri à celle du Nord Kivu. Les véhicules y sont escortés par des forces de sécurité en raison de la présence de groupes armés. Le convoi était en principe précédé de casquets bleus et suivi de l'armée, mais certains véhicules se sont retrouvés isolés et ont été attaqués. Le lieutenant Ngongo a appelé la population à bien respecter l'heure et les consignes pour l'organisation des convois, ajoutant que le mauvais état de la route n'a pas facilité une bonne circulation. Depuis mai, l'Ituri et le Nord Kivu sont placés en état de siège, mesure censée mettre un terme aux activités des multiples groupes armés qui terrorisent les populations.
L'ONG Amnesty International demande à l'État tunisien de mener une enquête sur le transfert qu'elle qualifie de gravissime vers Alger d'un militant algérien. Slimane Bouhafs était réfugié politique en Tunisie. Abdurrahman Dia.
Amna Gelali, la directrice adjointe pour la région Moyen-Orient-Afrique du Nord à Amnesty International, juge indispensable d'ouvrir une enquête impartiale et approfondie sur les circonstances du kidnapping, de la disparition forcée et ensuite de l'expulsion de Slimane Bouhafs vers l'Algérie malgré son statut de réfugié politique. Selon Amnesty International et une quarantaine d'autres ONG, M. Bouhafs a disparu le 25 août de son domicile à Tunis. Dans des circonstances mystérieuses, une voiture est venue le chercher à son domicile pour l'amener vers une destination inconnue. Les ONG, citant des médias algériens, ont affirmé que M. Bouhafs, 54 ans, a été livré par les autorités tunisiennes à l'Algérie pour y être jugé. Selon Amnesty, il est réapparu à Alger plusieurs jours après sa disparition. La Ligue algérienne des droits de l'homme a demandé au bureau du Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU à Alger d'intervenir en soulignant que M. Bouhafs devait bénéficier de la protection de la Convention internationale des droits des réfugiés ratifiée par l'Algérie et la Tunisie.
La Cour suprême américaine laisse en vigueur une loi du Texas restreignant l'avortement. La plupart des avortements sont devenus illégaux dans cet État où une loi sans précédent vient d'entrer en vigueur. Elle encourage la population à dénoncer les contrevenants. Le président Joe Biden l'a vivement critiqué, Michel Joseph.
Les opposants à la loi comptaient sur la Cour suprême des États-Unis pour la bloquer. Mais elle a refusé de le faire dans la nuit de mercredi à jeudi. Le texte paraphé en mai dernier par le gouverneur républicain Greg Abbott interdit d'interrompre toute grossesse une fois que les battements de cœur de l'embryon sont détectés à environ 6 semaines de grossesse, alors que la plupart des femmes ne savent même pas qu'elles sont enceintes. La législation ne prévoit pas d'exception en cas de viol ou d'inceste, mais seulement si la santé de la femme enceinte est en danger. Le président Joe Biden a fustigé une loi radicale aux dispositions honteuses et a promis de protéger le droit des femmes à avorter. La Cour suprême avait invalidé des lois identiques adoptées dans 12 autres États conservateurs, mais le Texas a formulé la sienne différemment. Il ne revient pas aux autorités de la faire respecter, mais exclusivement aux citoyens encouragés à porter plainte aux civils contre les organisations ou les personnes qui aideraient les femmes à avorter. Le texte prévoit que les citoyens perçoivent au moins 10 000 $ de dédommagement en cas de condamnation. Les détracteurs y voient une prime à la délation.
La Cour suprême des États-Unis, très divisée, avec 4 de ses 9 juges opposés à la décision, ne se prononce pas sur la constitutionnalité de la loi entrée en vigueur 24 heures plus tôt, mais invoque des questions de procédure complexes et nouvelles. Minute Éco, Frère Morin-Gibourg.
Le fonds gabonais d'investissement stratégique et sa filiale RIZ, co-détenue avec la Banque islamique de développement, ont annoncé hier la signature du premier contrat de pré-concession avec l'État gabonais. Selon Financial Afrique, cet accord porte sur la conception, le développement, le financement, la réalisation et l'exploitation d'une route à péage au sud de Libreville qui va relier le port à la zone industrielle, au trafic routier en provenance de l'intérieur du pays, en contournant la capitale gabonaise. En Côte d'Ivoire, un important gisement de pétrole offshore a été découvert, selon Thomas Camara, ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie. Les réserves comprennent du pétrole brut et du gaz naturel, dont le potentiel peut être estimé de manière préliminaire à environ 1,5 à 2 milliards de barils de pétrole brut, s'est félicité le ministre. Pétrole toujours, les membres de l'OPEP et leurs alliés ont validé hier leur stratégie d'augmentation progressive de la production pétrolière face à une reprise teintée d'incertitudes. Ce sommet ministériel a duré moins d'une heure, ce qui témoigne d'un consensus vite obtenu au sein des pays membres de l'OPEP.
Merci Claire. Maintenant, les sports avec Yacouba Ouédraogo.
Bonjour à tous. Balle au panier pour commencer. On connaîtra aujourd'hui la seconde affiche des demi-finales de l'Afrobasket Kigali 2021. Les deux derniers matchs des quarts de finale opposeront le Cap-Vert à l'Ouganda et la Tunisie au Soudan du Sud. Hier, le Sénégal a battu l'Angola 79 à 74. Et retrouve donc le dernier carré de cette compétition où il fera face à la Côte d'Ivoire qui a pulvérisé la Guinée en quart 98 à 50. Football, les matchs de la première journée des éliminatoires du Mondial la Qatar 2022 Zone Afrique se poursuivent ce jeudi. Sept matchs au programme, la République démocratique du Congo reçoit la Tanzanie à Lubumbashi. À suivre aussi Namibie-Congo, Madagascar à Bénin. Le Burkina Faso fait face au Niger, l'Algérie joue Djibouti. Le Maroc, le Soudan et le Kenya font face à l'Ouganda. Hier, match nul 1-1 entre la Centrafrique et le Cap-Vert. Même score entre la Guinée-Bissau et la Guinée. Le Sénégal a battu le Togo 2-0. La Libye a eu raison du Gabon 2-1. Courte victoire du Mali face au Rwanda 1-0. Pareil pour l'Égypte qui a eu le dernier mot devant l'Angola 1-0. Toujours dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2022, en Europe, le Portugal s'est imposé in extremis face à l'Irlande 2-1 grâce à un doublé historique de Cristiano Ronaldo. La nouvelle recrue de Manchester United dépasse ainsi l'Iranien Ali Daye pour établir un nouveau record mondial de buts en sélection, 111 réalisations. Pendant ce temps, à Strasbourg, dans le groupe D, les champions du monde français se sont fait surprendre par la Bosnie 1-1. L'Ukraine aussi a dû se contenter d'un match nul 2-2 au Kazakhstan. Le Danemark est toujours bien installé en tête du groupe F grâce à sa victoire 2-0 face à l'Écosse, 0-0 entre la Russie et la Croatie. La Slovaquie et la Slovénie se sont séparées sur un score nul de 1 but partout. Dans le groupe G, la Turquie n'a pas réussi à battre le Monténégro 2-2 pendant que les Pays-Bas ont fait match nul à Oslo contre la Norvège 1-1. Coup dur pour le Brésil dans la zone Amérique après avoir dû se passer de 9 joueurs retenus par leur club anglais. Deux nouveaux sélectionnés ont été sommés de rentrer en Russie par leur employeur, le Zénit Saint-Pétersbourg, le milieu de terrain Claudinho et l'attaquant Malcolm parmi les 9 joueurs appelés en renfort pour pallier à l'absence de 9 Brésiliens évoluant en Première Ligue sont retournés en Russie sous la pression du Zénit, a annoncé la Confédération brésilienne de football. La CELESAO prépare finalement les 3 rendez-vous de septembre face au Chili, l'Argentine et le Pérou avec 22 joueurs dont Neymar, libéré par le Paris Saint-Germain avec Marquinhos contre 25 initialement prévus.
Merci Yacouba. Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique en votre compagnie, Idrissa Seloulia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Congo-Brazzaville, la pénurie de carburant dans les stations-service provoque la désorganisation du transport en commun. Les bus et les taxis ne respectent plus les itinéraires officiels et les prix ne sont plus appliqués. Les usagers doivent débourser plus d'argent, tandis que les chauffeurs de taxi veillent dans les stations pour espérer avoir de l'essence. Reportage d'Arsène Sévrin, notre correspondant à Brazzaville.
À Brazzaville, en l'absence des bus publics de la STPU, les privés en profitent, la languissante pénurie de carburant aidant. Dans les arrêts de bus, la foule ne décolère pas.
Tous ces gens-là, ces bandits-là, les taximans et autres se comportent comme ça, c'est parce que l'État est faible. Pour descendre à Machua, vous payez Machua, Rond-Point Mongali. Si vous êtes au centre-ville, c'est vraiment difficile.
C'est tout un problème le matin, je dois emprunter au moins 3 à 4 bus.
Depuis plus de 2 semaines, en effet, le sens coule à compte-gouttes dans les stations-service de Brazzaville. Les chauffeurs de taxi y passent les nuits, malgré le couvre-feu en vigueur dans le pays. Eux aussi disent ne pas comprendre une telle pénurie, dénonçant par ailleurs les manœuvres des pompistes.
Ça fait déjà une semaine de là que je ne travaille pas. Une semaine. Quand je viens à la station, oh non, il faut donner quelque chose. Mais quelque chose que je vais vous donner là, je vais voir ça où.
Il y a certains petits qui viennent là parce que ce sont leurs petits. Ils amènent les bidons, ils pompent. Il donne quelque chose.
Mais nous sommes un pays producteur de pétrole. Nous voulons que les choses s'améliorent.
Les autorités s'expriment rarement à ce sujet. Le directeur général de la Société nationale de pétrole du Congo, Raoul Ominga, tente une explication, mais peu convaincante.
Nous ne communiquons pas sur ces pénuries pour des raisons stratégiques. Mais nous avons déjà pris toutes les mesures possibles pour que cette pénurie s'éloigne de nous. Et nous sommes là pour gérer la fourniture du carburant dans nos stations. On ne peut que s'excuser. Ça ne va pas se répéter, mais ça arrive. Même dans les grands pays, ça arrive. On a fait peut-être 300 pénuries, je pense. Mais c'est arrivé. On sait pourquoi, on connaît les raisons. On a pris le tiro par le corps. On aurait pu découvrir les choses, hein, aller toucher sur les stocks stratégiques pour qu'il n'y ait pas la pénurie. Mais on a continué à travailler normalement. Parce que notre rôle, le but pour nous ici, ce n'est pas de masquer les situations, mais de les vivre. Et faire en sorte que les solutions qui sont trouvées soient des solutions pérennes.
Le Congo-Brazzaville est le 4e producteur du pétrole en Afrique noire, avec plus de 350 000 barils par jour. Le pays dispose d'une raffinerie, la Coraf, pouvant produire jusqu'à 900 000 tonnes de carburant chaque année. Mais pourtant, désormais, on signale la même pénurie à Pointe-Noire, la ville pétrolière, jusqu'ici épargnée. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Restez à l'écoute de VOA Afrique 24h sur 24 sur 104.3 FM à Brazzaville et 98.3 FM à Pointe-Noire.
Dans l'est de la République démocratique du Congo, la criminalité a augmenté de façon spectaculaire ces derniers jours dans la ville de Goma, capitale de la province du Nord-Kivu. Après la fusillade qui a fait un mort et 7 blessés lundi soir à Katoï, dans la commune de Karisimbi, un autre vendeur de cartes, d'unités et changeur de monnaie a été tué mardi soir en plein centre-ville. Cette situation inquiète beaucoup les habitants qui craignent le pire si les autorités ne prennent pas rapidement des mesures appropriées pour mettre fin à l'insécurité. Pour davantage de détails, Zanem Netizaidi, notre correspondant à Goma.
Tout au long de la journée, les curieux ont afflué aux alentours de l'artère où s'est déroulée la récente scène d'assassinat dans la soirée. La victime de l'assassinat est un jeune vendeur qui faisait ses affaires dans ses kiosques. Le témoin oculaire, comme ses taximans moto, dénonce l'inefficacité de certains agents des forces de l'ordre qui était présent près du lieu du drame.
L'assassin avait déjà fini son travail. Il voulait rentrer chez lui. Quand il a voulu monter sur une moto, les assaillants lui ont tiré une première fois. Et quand il a voulu s'enfuir, ils lui ont tiré une deuxième fois devant la clôture. Lorsque les assaillants opéraient, il y avait des policiers qui assurent la sécurité de certaines maisons commerciales non loin d'ici. Mais ils n'ont rien fait. Ils devraient poursuivre ces assaillants et finalement les arrêter.
Au domicile de la victime, c'est la tristesse et la désolation. Le jeune frère de la victime partage sa douleur d'assister au décès inattendu de son frère avec qui il avait passé la nuit précédente et qu'il avait accompagné au travail le matin, il plaide pour un renforcement de la sécurité.
Lorsque nous avons appris cette nouvelle, nous avons été très surpris. La personne était en bonne santé. Il est difficile d'accepter qu'elle soit vraiment morte. Nous demandons aux autorités en charge de la sécurité à Goma de mieux sécuriser la population. Les gens meurent tous les jours alors que nous sommes en état de siège, période pendant laquelle nous devrions être en sécurité. Tuer les gens en pleine ville ne donne pas du tout une bonne image.
Les autorités locales ont pris des décisions pour arrêter l'hémorragie de l'insécurité à Goma. Par exemple, le maire de Goma, le commissaire principal Kabea Makosa, a interdit aux mototaxis de circuler après 19h dans toute la ville.
J'avais précédé par faire un communiqué officiel pour dire que les motos, les taxis motos et même les privés, les 4 septembre, à partir de 19h30, on ne veut plus voir circuler une moto à travers la ville. Rien. C'est pour la sécurité de nos populations.
La veille de la mort de ces jeunes vendeurs, une autre fusillade a été signalée, faisant un mort et 7 blessés à Katoï, dans la commune de Karisimbi, dans la ville de Goma. Zalem Letizaidi, pour VOA Afrique, Goma.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24h sur 24 à Goma, en RDC, sur 96.2 FM.
Le Bénin abrite les 2 et 3 septembre une assise préparatoire du réseau francophone des ministres en charge de l'économie numérique. Cette réunion se tiendra en prélude au 18e sommet de la francophonie. Le choix du Bénin est lié aux changements profonds opérés dans le secteur numérique. Précision de notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur Adandé.
Le Bénin ambitionne de devenir la plateforme des services numériques pour toute l'Afrique de l'Ouest et le fait des technologies de l'information et de la communication, le principal levier pour son développement socio-économique. Geoffroy Bonou est le président du Comité national d'interopérabilité. Son objectif, permettre la numérisation en un temps record de l'administration béninoise.
La plateforme nationale d'interopérabilité a été mise en place, ça fait déjà un moment, par le gouvernement. Alors c'est déjà permettre à tous ceux qu'on a comme système d'information au niveau de l'administration, d'interopérer. Ça veut dire quoi? Les systèmes d'information, par exemple, du ministère des Finances, de la fonction publique, de la CNSS, que tous ces systèmes d'information-là puissent interopérer et pour qu'on ait à la fin un même langage au niveau de ces systèmes d'information.
Le Bénin affiche fièrement ses ambitions en matière d'économie numérique. Le gouvernement entend utiliser les TIC comme catalyseur de dynamique économique et de modernisation du Bénin. Pour Christian Parfait, Aoyo, expert en économie numérique, les enjeux sont énormes et peuvent impacter tous les secteurs.
Les enjeux aujourd'hui, c'est de voir comment l'économie numérique peut être un support pour les autres secteurs, pour accélérer ces secteurs, pour les réorganiser et pour participer à la croissance. Depuis 20 ans, c'est le seul secteur dans lequel il y a eu les croissances soutenues qui ont conduit des pays entiers vers la croissance à deux chiffres.
Qui dit économie numérique dit Internet. Et au Bénin, la cherté de l'Internet est un sérieux problème que l'État ne parvient toujours pas à régler malgré les nombreuses mesures. Robin Akromessi est le président de l'une des associations des consommateurs au Bénin. Il dénonce le manque de sérieux dans les services fournis par les opérateurs GSM ainsi que la mauvaise foi de certains consommateurs.
La meilleure arme du consommateur, c'est d'impacter le fournisseur. Lorsque vous décidez de boycotter les services d'un fournisseur, mais vous verrez, il va commencer par vous respecter. Parce qu'il se rend compte que vous agissez sur ses entrées financières et que son activité commence par connaître une baisse.
Pour relire Adam Soulezoumarou, ministre de l'économie numérique et de la digitalisation, le gouvernement est déterminé et travaille à offrir aux Béninois la connexion Internet haut débit et accessible à moindre coût.
Nous avons à ce jour beaucoup de pour une connectivité dans notre pays et ce qui reste, c'est vraiment comment on amène au fur et à mesure le haut débit au plus près des populations et des entreprises. La réalisation d'un réseau métropolitain à fibre optique, nous allons également passer au déploiement de points d'accès, donc les hotspots Wi-Fi, dans certaines zones à forte fréquentation dans les communes.
En 2016, le Bénin était à près de 25% de pénétration de l'Internet mobile. Et aujourd'hui, ce taux tourne autour de 35% selon l'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste du Bénin. De Cotonou, Netflix dans les Pouvoirs Afrique.
Le comité international de la Croix-Rouge indique que plus de 48 000 personnes sont portées disparues à travers l'Afrique, dont au moins 21 600 mineurs. La plupart des disparitions enregistrées sont liées à des conflits armés, aux catastrophes et à la migration à travers le continent. Reportage de Mohamed Youssouf, récit de Claire Morin-Gibourg.
Le comité international de la Croix-Rouge affirme que le nombre de personnes signalées disparues est en augmentation en Afrique. Amaya Fernandez, conseillère du CICR sur les disparus et leurs familles pour l'Afrique de l'Ouest, explique.
D'une part, c'est dû au fait que nous essayons d'enregistrer plus systématiquement les cas de personnes disparues dans toute la région.
Also, certainly due to the increase, significant increase of violence and conflict.
Mais aussi, certainement, c'est en raison de l'augmentation de la violence et des conflits vécus sur le continent qui augmente en même temps la probabilité de disparition.
Looking at our figures, we can summarize that almost half of the missing persons that have been recorded are under.
En regardant nos chiffres, près de la moitié des personnes disparues sont des mineurs et la plupart sont des hommes. Parmi les femmes, on voit que la majorité sont des mineurs.
Les conclusions du CICR montrent que 39 360 des 48 000 disparus sont originaires des 7 pays théâtres de conflits armés. Selon l'Institut international de recherche et de paix de Stockholm, 20 pays d'Afrique sont concernés, dont 10 traversant des conflits de haute intensité. Madame Fernandez précise que ces conflits ont créé plus de douleurs et de souffrances pour les familles des personnes disparues.
Humanitarian consequences, particularly caused by protracted armed conflicts, are
des conséquences humanitaires causées par des conflits armés prolongés sont souvent reflétées dans la plupart des entretiens. Par exemple, la moitié des familles interrogées au Nigeria ont signalé que leurs proches avaient disparu en
2014-2015.
Au Soudan du Sud, la majorité des familles recherchaient des personnes portées disparues entre 2013 et 2016. En Libye, des familles ont signalé qu'elles recherchaient des proches disparus de la fin des années 70 jusqu'à nos jours. Et c'est la même chose pour les familles en Éthiopie et en Ouganda.
Certains experts voient la nécessité de former les travailleurs communautaires et les agents de sécurité sur l'importance du partage d'informations pour aider à localiser les personnes disparues. Le commissaire de police adjoint du Zimbabwe, Crispin Lifa, a déclaré que son pays et la région avaient besoin d'un système de gestion des données pour suivre les cas des personnes portées disparues.
There is need to have a database.
Il est nécessaire de disposer d'une base de données qui devrait être mise à jour en permanence afin que toutes les personnes disparues et même celles qui sont décédées soient saisies dans une base de données dans les commissariats. Et en fin de compte, ces informations doivent être mises en place. Donc, si vous voulez vérifier à travers le pays le nombre de personnes disparues, vous obtiendrez rapidement ces informations à partir d'un fichier central.
Get that information from a central point.
Le CICR appelle les gouvernements africains à prévenir les disparitions, à aider à leur recherche et à leur identification, et à répondre aux besoins des familles.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Vous étiez en compagnie d'Edressa Sélulia et de Michel Joseph à la mise en onde. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.